Vatican-catholique.com. Le monastère de la Très Sainte Famille présente « Le Temple de Dieu dans les prophéties » de Thessaloniciens 2.4 n'est pas juif, par le frère Peter Diamond. Dans 2 Thessaloniciens 2.4, qui se réfère à l'apostasie de la fin des temps, saint Paul dit que l'homme de péché s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Cette vidéo montrera ce qu'est le temple de Dieu mentionné dans la prophétie de 2 Thessaloniciens 2.4 et ce qu'il n'est certainement pas. Les fausses opinions à ce sujet sont liées à des erreurs massives dans la compréhension des prophéties du Nouveau Testament, à l'adoption de théories absurdes sur la fin des temps, et à des erreurs doctrinales significatives. C'est un sujet extrêmement important. Tout d'abord, le temple de Dieu dans la prophétie de 2 Thessaloniciens 2.4 n'est certainement pas un temple reconstruit de Jérusalem ou un temple juif, car ce ne serait pas du tout le temple de Dieu. Malheureusement, beaucoup de protestants et même quelques personnes mal orientées, qui prétendent être catholiques, ont adopté la position que l'homme de péché sera assis dans un temple reconstruit de Jérusalem. Mais cette position est manifestement fausse, illogique et non biblique. L'Église du Christ est l'Israël de Dieu. Galates 6.16. Les cérémonies, sacrifices et rites du judaïsme et de l'Ancienne Loi furent, avant que ne vienne Jésus-Christ, des signes qui pointaient vers lui. Mais après sa venue, et que ce qui était signifié par eux était présent, ces cérémonies cessèrent et furent remplacées par les sacrements du Nouveau Testament. La destruction du Temple en l'an 70 fut le signe définitif que le judaïsme, avec ses sacrifices, cérémonies et rites, est mort et enterré, et qu'il a été remplacé par l'Église de Jésus-Christ. Comme l'enseigna dogmatiquement l'Église catholique, observer ou pratiquer les rites de l'Ancien Testament après la promulgation de l'Évangile est un péché mortel. Saint Thomas d'Aquin expliqua correctement que les cérémonies de l'Ancienne Loi signifiaient que les gens se hâtaient de la venue du Messie. Par conséquent, le fait d'observer les cérémonies de l'Ancien Testament à notre époque, après que Jésus-Christ est venu et que l'Évangile a été promulgué, c'est prétendre que le Messie n'est pas encore venu et n'a pas accompli ce que signifiaient ces cérémonies, et ceci est hérésie et blasphème. Observer le judaïsme et l'Ancienne Loi aujourd'hui, c'est renier, en pratique, que Jésus-Christ est le Messie. Voilà pourquoi il est gravement pécheur de nos jours de pratiquer le judaïsme ou d'observer les cérémonies de l'Ancienne Loi après la promulgation de l'Évangile. C'est aussi pourquoi tout temple reconstruit dédié à ces rites disparus ne serait pas le temple de Dieu. Ainsi, le temple de Dieu, où est assis l'homme de péché, n'est certainement pas un temple reconstruit de Jérusalem ou un temple juif. La fausse opposition selon laquelle le temple de Dieu sera un temple juif reconstruit est généralement liée à la fausse doctrine que les juifs, dans la période du Nouveau Testament, sont le peuple de Dieu, ou que leur religion est de Dieu. Et c'est totalement faux. C'est en fait une hérésie, largement répandue de nos jours. Mais la Bible est très claire. Les vrais chrétiens, et non pas les juifs infidèles, sont Israël et le peuple de Dieu. 1 Pierre 2.9 démolit la notion selon laquelle n'importe quel groupe autre que l'Église est le peuple de Dieu, quand il parle de vrais chrétiens. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Comme nous pouvons le voir, les chrétiens, et non les juifs, sont le peuple élu de Dieu. Colossiens 3.12 présente la même vérité. En fait, chaque fois que le terme choisi est utilisé dans le Nouveau Testament, il se réfère à Jésus-Christ ou aux chrétiens. Il ne fait jamais référence aux juifs, ou à une race physique spécifique. Le peuple choisi par Dieu n'est pas celui qui est physiquement descendu d'Abraham, ou qui s'est joint à ses descendants physiques, mais plutôt ceux qui ont été spirituellement régénérés en Christ et qui maintiennent sa vraie foi. Galates 3.16 nous informe que les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité, et que la descendance d'Abraham n'est pas multiple, mais unique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Galates 3.29 nous dit ensuite que si vous appartenez au Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. C'est l'enseignement infaillible de l'Écriture sur la descendance d'Abraham. Rien ne pourrait être plus clair. C'est aussi pourquoi dans Actes 3.23, saint Pierre, parlant de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dit « Tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera exclu du peuple de Dieu et mis à mort ». La Bible enseigne que les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ sont exclus du peuple de Dieu. Ainsi, toute maison ou temple qu'ils construiraient ne serait pas le temple de Dieu. Il existe une abondance de preuves bibliques additionnelles qui pourraient être citées pour prouver davantage que les chrétiens, et non les Juifs, sont Israël et le peuple de Dieu. Puisque nous parlons du terme « temple de Dieu » dans la prophétie de 2 Thessaloniciens 2.4, il convient de noter que de nombreux commentateurs ont souligné que dans ces épîtres, y compris dans le premier et second aux Thessaloniciens, saint Paul prend des termes qui étaient à l'origine réservés à Israël, et il les applique à l'Église. Saint Paul enseigne que l'Église a pris la position d'Israël. De nombreux passages prouvent que ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ et de son Église ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas Israël, et ils n'ont aucune part avec lui. Ils doivent être convertis à la vraie foi du Christ pour faire partie de l'Israël de Dieu. Par conséquent, tout temple non chrétien ou juif construit à Jérusalem, y compris un temple qui prétend être une restauration de l'ancien temple, ne serait pas le temple de Dieu. Ce serait juste un autre temple du diable, dédié à une fausse religion. C'est aussi pourquoi les tentatives de reconstruire le temple de Jérusalem échouèrent et furent même empêchées par des événements miraculeux. Considérez par exemple la tentative faite en l'an 363 par l'empereur romain Julien l'Apostat. Beaucoup de gens ne sont pas familiers avec les événements miraculeux qui arrêtèrent l'effort visant à reconstruire le temple de Jérusalem, bien que ces événements fussent bien connus dans l'Église primitive. Julien l'Apostat, un ennemi du christianisme, désirait reconstruire le temple de Jérusalem en l'an 363 parce que sa destruction rendait les Juifs incapables de pratiquer la religion de l'Ancien Testament. L'anéantissement de leur temple, en accord avec la vie de Jésus-Christ et les prophéties, était une preuve divine que le Messie était venu et que le christianisme avait remplacé le judaïsme. Eh bien, c'est un fait, confirmé par de nombreuses sources, que tandis que les hommes de Julien travaillèrent pour reconstruire le temple, de miraculeuses boules de feu jaillirent dans la zone. La terre trembla, des croix apparurent sur les vêtements des hommes, et des gens furent tués, causant l'abandon de toute l'entreprise. Ce n'est pas juste une quelconque légende, il s'agit d'un événement historique bien documenté. Ces événements extraordinaires et miraculeux, qui empêchèrent la reconstruction du temple à Jérusalem, furent attestés par saint Grégoire Nazianz, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, les premiers historiens de l'Église, Socrate et Sozomène, ainsi que d'autres. Ils furent même confirmés par l'historien païen Ammien Marcellin, ami de Julien l'Apostat. Celui-ci déclara, citation, « Une éruption formidable de globes de feu, qui s'élancèrent presque coup sur coup sur des fondements mêmes de l'édifice, le temple, rendit la place inaccessible aux travailleurs, après avoir été fatale à plusieurs d'entre eux. Et ce prodige de feu, se renouvelant chaque fois qu'on revint à la charge, il fallut renoncer à l'entreprise. » Fin de citation. Ces événements extraordinaires, qui arrêtèrent la construction du temple, furent si bien documentés que saint Ambroise les utilisa comme argument dans sa lettre à l'empereur Gratien en 380. Il ne l'aurait pas fait si ce n'était pas des faits bien établis. Les événements miraculeux par lesquels Dieu intervint pour empêcher la reconstruction du temple de Jérusalem sont une autre indication puissante que le temple de Dieu, dans les prophéties des derniers temps du Nouveau Testament, n'est pas un temple reconstruit de Jérusalem. Même si l'on admettait que Dieu permettrait qu'une structure prétendant être une restauration du temple de Jérusalem fût achevée, les faits que nous avons exposés démontrent qu'une telle structure ne serait certainement pas le temple de Dieu, mais le temple d'une fausse religion. Voilà pourquoi le docteur de l'Église saint Jean Chrysostome, du IVe siècle, décrivit correctement les synagogues juives de la période du Nouveau Testament, non pas comme des maisons de Dieu, mais comme des lieux d'hébergement de démons. Il considérait les synagogues comme des demeures de démons, et disait qu'elles méritaient moins d'honneur qu'une auberge. Ceci est compatible avec l'enseignement de la Bible dans Apocalypse 3:9, disant que les Juifs, qui rejettent Jésus-Christ, ne font pas partie d'une religion de Dieu, mais sont membres de la synagogue de Satan. Comme d'autres en dehors de l'Église, ils doivent être convertis à la vraie foi du Christ pour être sauvés. Le sens d'Apocalypse 3:9 est que les Juifs qui rejettent Jésus-Christ ne sont pas de vrais Judéens ou Juifs. Ils ne sont pas Israël, parce que seuls les vrais chrétiens sont Israël. Les Juifs infidèles font partie de la synagogue de Satan. Seuls ceux qui appartiennent au Christ sont la descendance d'Abraham. Supposer par conséquent que le temple de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2:4, sera un temple juif, revient en fait à assimiler une demeure de démons et la synagogue de Satan avec ce qui est de Dieu. Ce qui est bien sûr tout à fait erroné. Une preuve supplémentaire que le temple de Dieu, mentionné dans 2 Thessaloniciens 2:4, n'a rien à voir avec le judaïsme, se trouve dans l'examen de la signification du temple de Dieu dans les épîtres de saint Paul. Même lorsque le temple de Jérusalem tenait encore debout, saint Paul expliqua clairement aux Corinthiens que les chrétiens avaient remplacé le temple de Jérusalem par le temple de Dieu. Par exemple, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Et « Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. » Selon le Nouveau Testament, les vrais chrétiens sont le temple de Dieu. L'Église du Christ a hérité de la position d'Israël et a remplacé le temple de l'Ancien Testament, qui fut détruit il y a presque 2000 ans, comme un signe divin du transfert à l'Église du Christ de toute chose venant du judaïsme de l'Ancien Testament. En fait, l'expression « temple de Dieu » est utilisée par saint Paul 4 fois en plus de 2 Thessaloniciens 2:4. Dans chacun des cas, il se réfère à l'Église. L'identification de l'Église comme le temple de Dieu se trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, y compris dans le livre d'Éphésiens et 1 Pierre. Le temple de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2:4, n'est pas un temple reconstruit de Jérusalem. De plus, le temple de Dieu n'est certainement pas un temple reconstruit par l'homme de péché ou l'Antéchrist, car alors ce serait son propre temple. Dans ce cas, ce serait un Naas Diabolou, un temple du diable, et non au Naas Théou, le temple de Dieu. En effet, dans 2 Thessaloniciens 2:4, l'article défini, c'est-à-dire le mot signifiant « le », se trouve à la fois devant le mot « temple » et le mot « Dieu ». Donc une traduction très littérale de la phrase grecque serait que l'homme de péché est assis dans le temple du Dieu. Ainsi, le temple dont se réfère la prophétie, qui est le temple du Dieu, n'est pas un temple construit par l'homme de péché ou l'Antéchrist. non, le temple de Dieu, se rapporte à l'Église de Jésus-Christ. Puisque la prophétie de 2 Thessaloniciens 2:4 dit que l'homme de péché sera assis dans le temple de Dieu, et il est évidemment impossible qu'une personne s'asseye physiquement dans l'entité spirituelle de l'Église, la prophétie indique que l'homme de péché sera assis dans la structure physique principale de l'Église de Jésus-Christ. Il sera assis dans un bâtiment qui a été connu et pourrait être considéré à juste titre comme étant le temple universel du christianisme. Des prophéties comme celle-ci au sujet du temple de Dieu ne pourraient évidemment pas se réaliser dans un monde qui imagine que le protestantisme reflète le christianisme, puisque les non-catholiques qui prétendent être chrétiens n'ont aucun temple de Dieu reconnu universellement. Pour eux, rien ne se distingue comme un temple de Dieu chrétien universellement reconnu dans lequel l'homme de péché pourrait s'asseoir. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, en désespoir de cause, ont opté pour l'idée complètement fausse du temple rebâti de Jérusalem. Même de nombreux non-catholiques qui rejettent la notion que les Juifs sont le peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, ont adopté la position qu'un temple juif reconstruit sera le temple de la prophétie, car ils réalisent que la prophétie se réfère à l'homme de péché s'asseyant dans une structure physique qui est identifiée comme le temple de Dieu. Et il n'y a rien qui pourrait être considéré comme le temple universel de Dieu dans un soi-disant christianisme non-catholique. Leur vue erronée sur ce que signifie le temple de Dieu conduit à des théories absurdes à propos de la reconstruction du temple juif et le rétablissement des rites juifs abolis qu'ils croient devoir se produire pour que s'accomplissent les prophéties de la fin des temps. Mais ce que la prophétie sur l'homme de péché assis dans le temple de Dieu devrait leur faire dire, c'est que le protestantisme n'est pas le vrai christianisme, car dans le vrai christianisme, il y a un temple universellement reconnu. Le temple universellement reconnu dans le vrai christianisme est le Vatican à Rome, et plus précisément, c'est la basilique Saint-Pierre au Vatican. La basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu, comme nous le verrons. Ce temple fut construit à l'endroit même où fut enterré Saint-Pierre, le premier pape. La construction de ce temple sur Saint-Pierre en personne servit ainsi de symbole approprié pour l'Église, car Jésus fonda l'Église universelle sur Saint-Pierre. Il identifia Saint-Pierre comme le rocher, lui donna les clés du royaume des cieux et lui confia son troupeau. Ainsi, tout comme Jésus-Christ construisit son Église universelle sur Saint-Pierre, il était approprié que la structure physique, le temple le plus important de cette Église, la basilique Saint-Pierre, fut également construit sur Saint-Pierre en personne, c'est-à-dire directement au-dessus de sa tombe. En fait, pensez-y de cette façon. L'Écriture enseigne que l'Église de Dieu est égale au temple de Dieu. Eh bien, l'Écriture enseigne aussi que l'Église de Dieu fut bâtie sur Saint-Pierre. Il s'ensuit donc que le temple de Dieu sera lui aussi bâti sur Saint-Pierre. Et c'est exactement ce qui arriva avec la basilique Saint-Pierre, qui fut construite juste au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Ceci est une autre indication que la basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu mentionné dans la prophétie de Saint-Paul. Et, comme l'ont montré nos vidéos, y compris Babylone est tombée, à notre époque actuelle, nous avons vu les prophéties apocalyptiques sur Babylone et la bête s'accomplir de façon frappante à l'endroit même de ce temple, la basilique Saint-Pierre. Or, avant de couvrir toutes les autres preuves que la basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu mentionné dans la prophétie de 2 Thessaloniciens 2:4, considérez ceci. Le 23 décembre 1929, le pape Pie XI publia son encyclique Quinquagesimo Ante. Cette encyclique mentionne et célèbre le traité du Latran de 1929. Comme l'explique notre matériel, le traité du Latran, signé le 11 février 1929, créa la cité-état du Vatican, qui octroya aux prétendants à la papauté un tout nouveau royaume à Rome, qui est le royaume romain des derniers jours prophétisé dans l'Apocalypse. Les 7 prêtres rois de la cité-état du Vatican, à commencer par le pape Pie XI, sont clairement les 7 rois romains mentionnés dans les prophéties apocalyptiques. Les prophéties s'accordent avec eux en des détails frappants, tels que l'Union européenne, la bête survenant lorsque 5 sont tombés, le 7e roi régnant pendant un court laps de temps, la prostituée de Babylone, c'est-à-dire la contre-église post-Vatican II de la fin des temps, associée à ce qui s'est finalement produit dans la cité-état du Vatican. L'un des signes d'Apocalypse 18:2 se produisant durant l'anniversaire de la signature du traité du Latran, le 11 février. Et cela arriva tout juste quelques heures après que le 7e roi de la cité-état du Vatican annonça la démission de sa royauté, un 11 février, et bien plus encore, comme le couvre notre matériel. En fait, il est très intéressant que Pie XI, le premier des 7 rois, reçut non seulement sa royauté le 11 février 1929, mais le lundi 11 février de cette année. Et l'antipape Benoît XVI, le 7e roi, annonça officiellement sa démission le lundi 11 février 2013. Et l'homme qui suivit les 7 rois romains, l'antipape François, non seulement n'est pas un prêtre validement ordonné, ayant été ordonné dans le nouveau rite invalide d'ordination, il ne peut donc pas être un prêtre roi de la monarchie sacerdotale de la cité-état du Vatican, mais il rejette aussi ouvertement tous les aspects de la royauté, indiquant par là que les 7 rois de la cité-état du Vatican, depuis le pape Pie XI jusqu'à l'antipape Benoît XVI, étaient effectivement les 7 rois romains de la prophétie. Or, dans l'année même où fut créée la cité-état du Vatican, et dans un document qui discute de ce nouveau royaume à Rome, le pape Pie XI dit ce qui suit au sujet de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Citation. « Une telle multitude convoquée le 1er décembre dans l'enceinte pétrinienne sacrée, que nous n'avons peut-être jamais vu le temple à Idem, le plus ample à ce point rempli. » Fin de citation. Le pape Pie XI, le premier roi de la cité-état du Vatican, se réfère à la basilique Saint-Pierre comme le temple le plus ample. Le mot qu'il utilise en latin est « eidem », la forme accusative du mot latin « eides », qui signifie « temple ». En fait, « eides » est un mot qui pourrait être utilisé pour traduire le mot grec « naos » en latin. Ceci prouve non seulement qu'il a été fait officiellement référence à la basilique Saint-Pierre comme « le temple », mais c'est une indication providentielle, l'année même où le traité du Latran fut signé, et dans un document qui discute du nouveau royaume à Rome, que la basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu dans la prophétie de saint Paul. Voilà pourquoi, à notre époque, les prophéties apocalyptiques ont été accomplies à cet endroit même. Par exemple, Apocalypse 18:2 prophétise que Babylone la Grande tombera et deviendra la prison de tout oiseau et bête immonde. Comme l'a montré notre vidéo, cette partie de la prophétie fut remarquablement accomplie au Vatican le 8 décembre 2015. Ce jour-là, la secte Vatican II présenta un spectacle de lumière sans précédent, appelé Fiat Lux, à l'occasion du 50e anniversaire de la clôture de Vatican II. Au cours de ce spectacle de lumière, les images et sons de toutes sortes d'oiseaux et de bêtes immondes furent projetés sur la basilique Saint-Pierre, correspondant exactement à la prophétie dans Apocalypse 18:2 sur la façon dont Babylone la Grande est devenue la prison de tout oiseau et bête immonde. En fait, comme le couvre la vidéo, la prophétie utilise en grec le mot phoulaké pour décrire comment Babylone est tombée et est devenue la prison ou cage de chaque oiseau et bête immonde. Et les piliers du devant de la basilique Saint-Pierre ressemblent précisément à des barreaux de prison. De sorte que lorsque les images des animaux et des oiseaux furent projetées sur la basilique Saint-Pierre, pendant le spectacle de lumière, ils semblaient être dans une prison ou cage, exactement comme l'indique la prophétie. Cela signifie que l'accomplissement de la prophétie était interconnecté avec les caractéristiques spécifiques de la basilique Saint-Pierre, le temple de Dieu. Le spectacle de lumière sur la basilique Saint-Pierre a été un accomplissement stupéfiant et direct de ce qui est prophétisé dans Apocalypse 18:2, et l'événement symbolisait la chute de la ville de Rome dans l'immondice et l'apostasie dans les derniers jours, en résultat de la prise de contrôle du temple de Dieu et de Rome par les antipapes Vatican II et leur contre-église de la fin des temps, la secte Vatican II, ce dont il est question dans les prophéties sur la prostituée de Babylone, en général. En outre, notre vidéo a montré comment l'autre partie d'Apocalypse 18:2, concernant la façon dont Babylone est tombée aux démons et à tout esprit impur, a également été accomplie de manière époustouflante au même endroit, à la basilique Saint-Pierre, le jour où le 7e roi de la cité-état du Vatican, l'antipape Benoît XVI, annonça qu'il démissionnerait, le 11 février 2013. Le signe que Babylone était tombée aux démons et à tout esprit impur, était la foudre. Les deux coups de foudre frappant le sommet de la basilique Saint-Pierre lors d'un jour critique pour les prophéties des derniers jours. Cela correspond exactement à ce que Jésus dit dans Luc 10:18, à savoir qu'il a vu Satan tomber comme la foudre. Et quand vous comparez les contextes de Luc 10:17-20 et d'Apocalypse 18:2, le parallèle est absolument indéniable. Les deux passages concernent des démons, des esprits impurs et Satan tombant dans un endroit particulier. Luc 10:18 nous dit que le signe que Satan tomba une fois était la foudre. Il est donc parfaitement logique que le signe que Babylone est tombée aux démons et à tout esprit impur, c'est-à-dire que Satan tomba deux fois, une fois sous la forme de démons et une fois sous la forme de tout esprit impur, était la foudre. Et l'accomplissement de la prophétie devient encore plus spécifique et étonnante, parce que le dôme de la basilique Saint-Pierre fut construit précisément au-dessus du maître-autel et de la canopée en bronze, indiquant la tombe de Saint-Pierre. Ainsi, le dôme indique l'endroit exact où se trouve Saint-Pierre, et 1 Pierre 5:13 définit infailliblement l'emplacement précis de Babylone comme l'église de Saint-Pierre et l'endroit où se trouve Saint-Pierre. Donc, lorsque la foudre frappa le sommet du dôme de la basilique Saint-Pierre, accomplissant la prophétie au sujet de Babylone, qui est tombée aux démons et à tout esprit impur, elle frappait l'endroit exact, avec une précision extrême, où se trouve la tombe de Saint-Pierre, l'emplacement exact de Babylone selon l'Écriture. Cela signifie que nous pouvons expliquer et démontrer comment chaque mot de la prophétie d'Apocalypse 18:2 s'est accompli à cet endroit même, la basilique Saint-Pierre. Nous pourrions aussi passer par beaucoup d'autres versets dans l'Apocalypse et montrer que ce qui s'est passé à Rome et à la basilique Saint-Pierre, de nos jours, remplit ces prophéties. La basilique Saint-Pierre est un point central dans les prophéties parce que c'est le temple de Dieu. Lorsque saint Paul le décrit dans 2 Thessaloniciens 2:4, il le décrit non pas comme le temple du diable, mais comme le temple de Dieu, parce que l'Église catholique est la seule vraie Église de Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Toutes les autres soi-disant Églises sont fausses. L'Église catholique est la seule Église véritable. Mais dans les derniers jours, dans l'apostasie finale, comme faisant partie de la grande tromperie, Dieu a permis que son temple et les édifices de son église soient pris par une contre-église dirigée par des antipapes hérétiques. L'église catholique existe toujours dans un reste de catholique traditionnel. Pour être un vrai catholique, et donc un vrai chrétien, il faut être un catholique traditionnel. Cette vidéo est la première partie d'une plus longue présentation sur le temple de Dieu dans les prophéties. Restez à l'écoute pour les autres parties, et consultez nos vidéos sur les prophéties et l'Apocalypse, comme, entre autres, les vidéos « Babylone est tombée » et « L'Antéchrist identifié ». L'Antéchrist identifié couvre en détail l'autre partie de 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 au sujet de l'homme de péché, qui s'est étendu et élevé au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou de tout objet de culte, à l'événement caractéristique de l'apostasie prophétisée. VaticanCatholique.com